Pour la méditation de ce jour, Matthieu chapitre 11, versets 25 à 30. Matthieu chapitre 11, versets 25 à 30. Au nom de Jésus. En ce temps-là, Jésus s'écria : Ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te remercie d'avoir révélé aux petits ce que tu as caché aux sages et aux gens instruits. Oui, Père, tu as bien voulu qu'il en soit ainsi. Mon Père m'a remis toutes choses. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et ceux à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Le joug que je vous invite à prendre est facile à porter, et le fardeau que je vous propose est léger. Amen. Avez-vous déjà entendu la moquerie des gens sur la composition sociologique de ceux qui se disent pratiquants? Il y a des sociologues qui ont fait une étude. Quelle est la composition sociologique des pratiquants chrétiens? Je dis bien les pratiquants et non les croyants. Quand j'étais à Lausanne, il y avait un sondage qui est sorti sur ce sujet-là, et ça m'a beaucoup intéressé. Et c'était flagrant. Paraît-il que la plupart des personnes qui sont vraiment engagées dans la foi sont en majorité des personnes faibles. Faibles selon la société, hein. On ne parle pas ici spirituellement parlant. Des personnes fragilisées, des personnes déçues de la vie. Et d'autres vont même jusqu'à dire les marginaux de la société. Cependant, les hauts potentiels de la société, les élites, ceux qui ont réussi dans la vie et non pas ceux qui ont réussi sa vie, je tiens à le souligner, ne voient pas l'utilité de confier leur vie à un Dieu quelconque. Ceux qui ont tout perdu, ils sont devenus chrétiens. Voilà le résultat du sondage qui a été fait. Et c'est un sondage scientifique, hein? Eh bien, moi, je vous dis, haut et fort, oui, c'est vrai. Et je suis même fier d'en faire partie de ces gens-là. Je ne chercherai même pas à faire partie du cercle de ces personnes qui trouvent qu'ils ne voient d'aucune utilité de dépendre d'une force extérieure. Et ici, le texte de l'évangile que nous avons aujourd'hui fait même l'éloge des simples gens. Justement, ces personnes qui sont tout, sauf les sages, sauf les intelligents, sauf les HP, les hauts potentiels, ces gens-là que Jésus loue ici aujourd'hui. Et si les gens de ce monde cherchent à devenir des best of the best, comme disent les Anglais, les meilleurs, Jésus, lui, nous dit, reste tel que tu es. Car heureux sont les gens simples, dit-il. Eux seuls verront Dieu, puisque Dieu se révèle à eux. Matthieu semble avoir quand même plus de retenue dans sa façon de parler. Mais si nous regardons la version lucanienne, c'est-à-dire l'évangile de Luc, la réaction de Jésus qui s'exclama, je vais vous relire le texte, « En ce temps-là, Jésus s'écria ». Est-ce que vous avez déjà remarqué ce verbe, Jésus qui crie? Ce n'est pas d'habitude qu'on voit ça dans les évangiles. Et dans la version lucanienne, la réaction de Jésus qui s'exclama avec plein d'enthousiasme et encore plus explicite, voilà ce qu'il dit, Luc chapitre 10, verset 21. « À ce moment même, Jésus fut rempli de joie par l'Esprit Saint et s'écria, rempli de joie, et il s'écria. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut voir Jésus qui montre son humeur comme ça dans l'Évangile. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit Jésus plein de joie et s'écriant vers le Père. Et quand je me suis attardé sur ce passage, j'ai regardé le texte grec. Et si je fais une sorte de parallélisme avec le langage d'aujourd'hui, en essayant de rester avec le sens original grec, Jésus ici, il est fou de joie. C'est pas juste, il est content. Fou de joie. À la limite, il pourrait dire « Youpi !» C'est ça, parce que s'écria, il s'écria de joie. Il y a une intensité derrière. Alors la question qui se pose, qu'est-ce qui explique cette humeur de Jésus? Il en faut vraiment pour faire sauter de joie le Christ, non? Puisqu'il a tout. Il a tout dans son royaume. Mais qu'est-ce qui va encore l'impressionner? Ça doit être quelque chose de renversant, comme on dit, comme disent les jeunes aujourd'hui. Et oui, c'est le cas. Car Jésus loue son Père d'avoir complètement renversé la vapeur ou le système pyramidal de la société. Le Père a renversé le système de la société. Les plus forts, les plus intelligents, les illuminés, ils se retrouvent en bas de la pyramide. Et les faibles sont en haut. Non pas dans le but d'humilier les forts, non. Mais de montrer justement la logique du royaume de Dieu. Et quelle est cette logique du royaume de Dieu? C'est logique que les plus forts soutiennent les faibles, non? Donc il faut que les forts soient à la base de la société. C'est logique. Or, la fonction de notre société aujourd'hui, ce sont les faibles qui soutiennent les puissants. Dans notre système économique, système financier, système social. Et c'est ça qui fait la souffrance du monde. Donc la logique dans le royaume des cieux, le plus fort est à la base, parce qu'il a la capacité, il a les moyens de soutenir les faibles. Voilà ce que Jésus, il dit, voilà le plan de Dieu. Et il suffit de regarder Jésus pour avoir cette réponse. Dans Marc chapitre 12, verset 10, il dit « N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture ? La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre d'angle. » Donc Jésus est devenu cette pierre d'angle qui soutient le monde, puisqu'il est le plus fort. Et c'est la logique. Seul le fort qui peut soutenir les faibles, sinon ça ne tient pas la route. Une autre question. Qui sont indiqués ici alors comme les tout-petits? Souvent quand on prêche sur ce texte, tout de suite on pense aux petits-enfants, tout de suite on pense aux femmes vulnérables de la société, les samaritaines, les collecteurs d'impôts. Ben non, il faut regarder bien le texte. En regardant le texte grec, il parle des simples gens. Alors je me suis dit, c'est qui alors ces simples gens? C'est pas clair. Et pour en savoir un peu plus sur ces personnes que Jésus qualifie de tout petits ou de simples, il faut regarder la suite du texte. Il parle ici vis-à-vis des intelligents et vis-à-vis des sages. Donc c'est l'opposé des sages, c'est l'opposé des intelligents, qui est cité au verset 25. Donc par déduction, nous pouvons en déduire de là que ce sont des personnes qui ne font pas partie du cercle des sages, des philosophes, des penseurs de l'époque, ou des gens instruits, les scribes, les pharisiens. Alors, Jésus s'adresse à qui? À ses disciples. Et les disciples ici, ce n'est pas juste les 12, mais tous ceux qui le suivaient, la masse, la population. Alors, pourquoi ce choix spécifique des simples ou des disciples? Un disciple ne fait que suivre leur maître et ne fait que les écouter. Contrairement aux pharisiens qui ne font que parler, ils trouvent toujours des choses à dire. Si vous regardez les évangiles, ils trouvent des choses à dire, ces pharisiens. Ils trouvent toujours des critiques parce qu'ils se prennent plus intelligents que les autres. Mais un disciple, c'est celui qui se met dans une posture d'écoute. En d'autres termes, seul celui qui sait se taire, celui-là peut entendre et recevoir la révélation de Dieu. Puisque Dieu se révèle, et quand Dieu se révèle, si vous lisez dans l'Ancien Testament, Dieu dit « Écoute, ô Israël !» Donc il faut que tu te taises, parce que Dieu parle. Nous avons un Dieu qui se donne, et il y a une belle phrase prononcée par Jésus lui-même, qui rajoute encore une couche en parlant de cela au verset 26b. « Tu les as révélés aux tout-petits. » Écoutez bien la suite. « Oui, Père, parce que tel a été ton bon plaisir. » C'est beau, non? « Tel était ton bon plaisir. » Dieu qui prend du plaisir à se révéler aux tout-petits. Et humainement parlant, ce que Jésus dit là est complètement insensé dans la logique du monde. Pourquoi? Parce qu'un Dieu peut-il avoir une vue d'en bas? Ça n'existe pas dans toutes les religions. Un Dieu a toujours une vue d'en haut. Un Dieu ne peut pas voir d'en bas. Ce n'est pas sa place. Ce sont les tout-petits. Ce sont les faibles qui peuvent regarder d'en bas. Or, ici, Jésus dit, le Père Tout-Puissant, il a une vue d'en bas, mais pas d'en haut, là où il est sur son trône. Et c'est ça qui a poussé Jésus dans la joie, dans l'allégresse. Un Dieu qui s'aligne avec nous. Un Dieu qui se met au même niveau que nous, même s'il est le Dieu Tout-Puissant. Cela nous fait rappeler la célèbre phrase de Paul dans son épître aux Éphésiens. Lui qui était vraiment divin, il ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu. C'est-à-dire qu'il a quitté son rang. Il n'a pas gardé son rang, son niveau ou sa place à l'égal du Père, mais il est descendu au même niveau que les hommes. En écoutant cela, nous pouvons dire que voilà, c'est le monde à l'envers, le renversement du système pyramidal. Les hommes cherchent à se faire déifier aujourd'hui, tout le monde veut être un dieu, à devenir des dieux. Par contre, notre Dieu, lui, il s'est humanisé. C'est le monde à l'envers. Et ce qui est étonnant dans l'histoire de l'humanité, quand l'homme, à chaque fois l'homme essayait à tout moment de devenir des dieux, quelle est la conséquence de ses actes? Était toujours dévastatrice. Quand l'homme essaie de devenir un dieu, à chipoter tout ce que Dieu fait, il tue. Or, un Dieu est fait pour créer. Et vous voyez la différence? Un homme qui veut être un Dieu, il tue, il détruit, il écrase. Et Dieu, qui s'est humanisé, donne la vie. J'aime bien cette idée d'un Dieu qui se met au même rang que l'homme. D'ailleurs, Jésus utilise une expression qui va dans ce sens au verset 29 et 30 dans notre texte. Qu'est-ce que Jésus a dit ici? Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos, car mon joug est bon et ma charge légère. J'avoue, j'avais toujours tout de suite compris ce passage comme s'il fallait porter la croix du Christ. Et c'est pas ça. Parce que si on prend cette expression ainsi, comme si quelque part il fallait se résigner à ce que Dieu nous impose à porter comme fardeau, or il dit ici son joug est léger. Et dans notre tête, on s'est laissé convaincre que telle est la vie chrétienne, la croix qu'il faut porter. Et donc, à moi de me faire une idée, c'est léger, même si ce n'est pas léger. Donc vous voyez, ça ne tient pas la route. Loin de tout cela, portez le joug, ici le Christ qui dit portez mon joug, vient de l'expression ici en grec, l'expression de deux bœufs qui tirent une charrette. Et il faut bien aligner les deux bêtes, sinon ça va être compliqué pour eux. Et il y a une notion de partage des charges et du poids derrière l'image. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu qui se met au rang de l'homme, qui se met au même niveau que l'être humain, Jésus annonce qu'il va s'aligner à notre niveau, même s'il est Dieu, pour partager ce que nous vivons et ce que nous subissons. Voilà ce qu'il promet. Ton joug sera plus léger puisque je vais le partager avec toi. Il n'est pas celui qui frappe la bête afin que la bête puisse avancer un peu plus vite. Et c'est pour cette raison qu'il est dit que son joug est bon et sa charge est légère. Et j'insiste beaucoup sur cette question de partage. En quoi consiste ce partage? Il est question ici de révélation, puisque Jésus a dit « tu t'es révélé au tout petit ». Et donc la consigne est claire, que chacun prend sa bonne part, et surtout ne pas prendre la part qui revient à Dieu, car nous n'avons pas les épaules assez larges pour cela. Reste sur la partie qui te revient. Si tu commences à prendre la partie de Dieu, alors le stress arrive tout seul, l'angoisse arrive, la peur arrive, puisque ce n'est pas ta place. Quand on essaie de résoudre nos problèmes par nos propres intelligences, forcément, nous serons fatigués. Parce que ce n'est pas ta responsabilité, c'est sa part. Ta part, accepte et suis ce qu'il te dit, c'est tout. Si le poids devient lourd, c'est parce que nous voulons prendre la place de Dieu. Et notre part, c'est de juste prêcher, annonce mon évangile. Annoncer, et ça s'arrête là. Tout le boulot lui revient. Et le réformateur Luther avait dit ces choses assez interpellant, il a dit, la parole doit agir et non pas par nous pauvres pécheurs. Je veux la prêcher, je veux l'écrire, cette parole, mais seule la parole doit œuvrer. Et écoutez bien ce qu'il dit, et elle le fait quand je dors et quand je bois de la bière avec mes amis. Ben, on voit bien qu'il aime la bière, oui. Mais cette belle image, c'est que ta part, c'est d'annoncer, c'est tout, c'est moi qui fais le reste. Et même quand tu ne dis plus rien, j'œuvre encore, je travaille. Vous savez, quand vous avez fini d'entendre la parole ici, vous rentrez chez vous, croyez-vous que vous êtes tranquille? Il y a le Saint-Esprit qui vous suit et qui travaille. Et là, pendant toute la semaine, il va œuvrer en vous. C'est ça l'œuvre de Dieu. Et quand on regarde cet équilibre, ce qu'on fait ici n'est rien du tout par rapport à ce que l'Esprit Saint fait dans les cœurs des gens. La parole, elle est autosuffisante. Elle en a même la capacité à agir, à transformer des vies tout entières. Sans ma contribution, la parole, elle est autosuffisante. Et pour une simple et bonne raison, nous avons un Dieu qui se révèle. Et non un Dieu qu'il faut chercher, un Dieu qu'il faut creuser quelque part, trouver quelque part, un Dieu qui se révèle. Ça pourrait peut-être nous sembler bizarre d'entendre qu'il ne faut pas se casser la tête dans l'efficacité de la prédication. Et oui, ce n'est pas parce que la parole a été bien prêchée qu'elle sera forcément efficace, non. Et vice-versa, ce n'est pas parce que j'ai des maladresses dans ma façon d'annoncer l'évangile que forcément Dieu n'agira pas, non. Sinon, nous avons un Dieu qui dépendrait de ses annonceurs. Dieu ne dépend pas de moi. Il peut se passer de moi. Mais la petite part que Dieu nous donne, faisons-le quand même avec zèle et passion. Car à vrai dire, Dieu n'a pas vraiment besoin de moi pour le faire. Et il a dit à ses disciples avec ceci, je vous le dis, si eux se taisent, ce sont les pierres qui crieront. Dieu trouvera toujours les moyens de faire passer son message, que tu le veuilles ou non. Amen.